Voilà, nous retrouvons pour notre méditation d'aujourd'hui de ce culte le Sermon sur la montagne, donc un grand discours où Jésus dit à ses disciples ses perspectives pour leur vie. Cela fait maintenant un petit bout de temps que nous avons laissé ce Sermon sur la montagne, plus d'un mois. Il y a eu les fêtes de Noël, il y a eu d'autres événements. Et je vous invite donc à lire dans Matthieu au chapitre 5, les versets 31 à 37. Dans ce sermon, Jésus aborde différents aspects très, très concrets de notre vie et nous en touchons donc à deux qui sont unis par un même fil. Matthieu 5, versets 31 à 37. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Mais moi je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Que faites-vous de vos promesses ? Cette question est posée assez régulièrement aux hommes politiques. La promesse fait partie de l'arsenal de tout candidat à un suffrage. Il faut s'engager sur l'avenir. Il faut aussi faire un peu rêver. Mais les promesses sont aussi le lieu de toutes les désillusions. Le cimetière des promesses non tenues ne cesse de se remplir. Et les noms les plus prestigieux y ont leur concession, et à perpétuité, pourrait-on dire. Que faisons-nous de nos promesses ? C'est la question qui nous est adressée dans ce texte par Jésus. Que votre parole soit oui, oui, non, non. C'est clair, c'est net. Pas de mélange, du genre un oui de façade qui cacherait un non par derrière. Pas de relâche non plus, avec un oui essoufflé qui s'éteindrait en non. Jésus nous invite à donner force à nos oui tout au long, à les maintenir fermes, à maintenir fermes également les noms de nos refus ou de nos résistances. Jésus a eu soin d'unir les deux, le oui et le non. Et c'est sagesse. Car notre vie s'écrit avec des oui et avec des non. Il faut les deux baliser la route. J'ai lu le témoignage de quelqu'un qui était plutôt naturellement du style à dire non à tout, de protéger. Et il a décidé de tester une semaine de sa vie où il ferait le contraire, où il dirait oui à tout. Formidable école d'ouverture pour accepter de prêter attention à ce à quoi on se serait fermé par réflexe. Dire oui, cela ouvre. Ça trace des routes nouvelles. Que de découvertes, des vraies rencontres rendues possibles par ces oui que l'on accepte de dire. Mais au bout, la découverte aussi qu'on a le besoin de se retrouver soi-même, de poser ses limites. On ne peut pas être dans l'ouverture tout le temps, on s'y perd autrement. Et au bout de sa semaine, notre compère était content de pouvoir dire non à un certain nombre de choses pour dire « j'existe encore moi ». Il faut le non aussi pour pour s'appartenir encore. Le oui et le non. On a besoin des deux. Tout comme on a besoin de l'accélérateur et du frein. Mais pas des deux en même temps. Ou pas de l'un à la place de l'autre. Si vous conduisez comme cela votre voiture, vous savez que vous allez à la catastrophe. Si nous conduisons ainsi notre vie, nous ne ferons pas mieux. Parmi les oui qui comptent dans une vie, il y a celui qui fait le mariage. Et Jésus nous en parle dans son sermon sur la montagne. Voilà un oui aux conséquences immenses. Toute une vie orientée, déterminée par une parole donnée. À vrai dire, le mariage est l'union de deux oui, heureusement. Il ne se fait pas à sens unique. Tout comme, pour la suite, ce que l'on construira ensemble sera le fruit de deux efforts, l'union de deux attentions mutuelles, de deux fidélités, de deux mouvements d'amour appelés à se conjuguer. Mais voilà un oui qui illustre la force de ce mot, à tracer une ligne, à orienter le cours des choses, le pouvoir de dire oui. Si on réfléchit à ce oui du mariage, la force de ce oui, c'est d'abord ce que chacun y met, un engagement, un choix clair de l'autre, pour qu'il soit notre unique, et pour l'autre, un attachement, l'adhésion à un projet. La force de ce oui, ce que chacun y met. Mais la force de ce oui, c'est aussi son caractère public. Pour tous, désormais, sans exception, les deux époux sont mari et femme. Leur oui leur donne le même nom, publiquement, tout en conservant leur prénom. La force de ce oui, donc, le côté public. Mais la force de ce oui, c'est aussi la force de la loi. Dans le mariage, on s'unit par amour, bien sûr, mais aussi par la loi. Elle impose des obligations aux époux. Elle peut intervenir en cas de défaillance ou de manquement. Elle rappelle que le oui donné a de la consistance, qu'on ne joue pas avec et qu'il demeure. Et c'est pour cela qu'on se marie devant le magistrat. Alors tout cela, bien sûr, n'est pas extérieur aux conjoints. Ce sont eux qui disent ce oui, avec toutes ces résonances. Et c'est leur plus grand désir que tout cela s'unisse pour former un oui solide, un oui bienfaisant, un oui consistant, un oui ouvert sur la vie et porteur d'avenir. Et c'est bien qu'il y en ait encore des oui comme cela dans la vie. C'est bien qu'il y ait encore des oui entiers, où l'on se donne sans calcul, sans mégotage, sans chichouillure. Ce oui, pourtant, on le découvre aussi vulnérable. C'est vrai aujourd'hui, ce l'était du temps de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus nous invite à veiller sur nos cœurs, sur nos regards, face à cette magnifique réalité qu'est la diversité homme-femme, riche de toutes ses forces d'attraction, de connivence, de désir. Nous l'avons déjà lu, c'est ce qu'il dit dans les versets précédents. Mais Jésus continue et demande à ceux qui veulent le suivre de bien veiller à tenir ferme le oui de la parole donnée lors du mariage. Et cela, il le fait en opposant un non ferme à une vision trop facile du divorce, de la répudiation et du remariage, tout en soulignant la gravité de l'infidélité. Et tout cela, il le dit en deux phrases. Quelle en est l'intention? Quel en est le sens? Je vous relis ces deux phrases. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Jésus part d'une disposition de la loi de Moïse, concernant la répudiation. C'est un texte qui se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 24, vous pourrez le lire si vous le voulez à la maison. On peut résumer ce texte de la façon suivante. Si un homme, ayant découvert chez sa femme quelque chose de vraiment honteux, la répudie, il lui donnera une lettre de divorce, disait Moïse, et elle pourra se remarier. Mais si, pour une raison ou pour une autre, cette femme était de nouveau libre, que cet homme sache qu'il ne pourra pas la reprendre. C'est comme ça que je résume ce texte, et c'est l'intention de ce texte. Autrement dit, la femme n'est pas un jouet entre les mains d'un homme qui pourrait la renvoyer et la reprendre à sa guise. Le divorce est possible si un homme veut répudier sa femme, mais il implique des droits pour la femme. Elle doit pouvoir reconstruire sa vie. Et son ex-mari doit savoir qu'il ne pourra pas la reprendre. Il y a là très clairement un refus de la banalisation de l'acte, un appel au sérieux et à la responsabilité et une volonté de protéger la femme de l'arbitraire. Qu'a-t-on fait de ce texte au temps de Jésus ? On en a fait l'affirmation d'un droit au divorce. Vous avez entendu qu'il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre au divorce, une lettre de divorce. C'est tout ce qu'on retient de ce texte. La possibilité de répudier, la lettre à donner si on le fait. Bref, la répudiation comme formalité. Là où le texte de Moïse, lui, soulignait la gravité de l'acte, on est là plutôt dans la simplicité, la banalisation. Et les discussions faisaient rage au temps de Jésus, entre les ouverts et les stricts, pour déterminer les motifs légitimes de ce droit au divorce. Pour les plus laxistes, un repas brûlé suffisait. Pour les plus stricts, il fallait une inconduite sexuelle avérée. Jésus ne se laisse pas enfermer dans le débat sur les motifs légitimes du divorce. Son « mais moi, je vous dis » annonce autre chose. Ce qu'il veut valoriser, lui, c'est le mariage. C'est un lien fort. C'est un engagement profond. Il n'est pas légitime de faire ou de défaire n'importe comment. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, dira-t-il plus tard. Car Dieu est témoin de la parole qui a été donnée lors du mariage. Et en tant que témoin, il veut en être le garant. À cause du sérieux de ce « oui » dont Dieu est témoin, il peut donc arriver qu'un divorce soit illégitime aux yeux de Dieu et que la personne qui se remarie se remette en faute. C'est ce que dit Jésus en déclarant qu'elle risque de devenir adultère. C'est en cas de remariage, de nouvelle relation. Jésus ici radicalise un peu quand même la loi de Moïse. La loi de Moïse disait, si une femme est répudiée, elle peut se remarier. Mais son ex-mari ne pourra plus la reprendre. C'est pas si simple, dit Jésus. Avez-vous pensé, pourrait-on dire, au lien impliqué par l'engagement, au sérieux du oui, de la parole donnée? Certes, si ce oui a déjà été trahi par un acte, par une faute grave comme l'adultère, comme l'infidélité, alors oui, certainement, on peut considérer que le divorce est légitime, c'est pourquoi Jésus met cette clause d'exception en parlant de l'infidélité. Mais il faut un motif grave, sérieux, au niveau de la gravité d'un adultère, qui est déjà en acte une trahison de l'engagement pris. Cette trahison douloureuse, il sera légitime de la sanctionner, car la faute est grave, elle a créé une brèche profonde. Ce n'est pas obligé de le faire quand même. Le pardon pourra bien sûr éventuellement surmonter ces choses s'il y a repentance et changement de conduite de la part de celui ou celle qui a eu une attitude d'inconduite. Mais il faut que celui ou celle qui commet une faute grave comme l'adultère que cette personne sache que cela peut définitivement casser son couple et que son conjoint est légitime aux yeux de Dieu pour demander le divorce. J'ai essayé de vous dire avec mes mots la façon dont je comprends ce texte. Il y a plusieurs choix derrière ce langage. Je considère par exemple que ce que Jésus nous dit ne nous oblige pas à penser que le lien conjugal demeure aux yeux de Dieu entre des personnes divorcées. Je préfère parler de lien conjugal légitimement ou illégitimement rompu. Et j'ai parlé de l'adultère comme le genre de faute grave qui légitime un divorce. Je comprends cette clause, sauf pour adultère, comme une clause exemplaire, plutôt que comme le seul cas mathématiquement envisageable pour un divorce. Ce qui veut dire, dans cette compréhension des choses, que, par exemple, la désertion totale d'un couple, la mise en danger d'un conjoint ou de la famille, des atteintes inacceptables à la personne que sont les violences conjugales, appartiennent, à mon sens, au même genre de faute grave que l'adultère par rapport à l'engagement pris lors du mariage. Je n'ai pas le temps de développer plus, mais je vous signale ces choix que j'ai faits pour vous parler de cette façon-là. Mais voilà Jésus quand même très clairement, sur une ligne haute, sur une ligne exigeante, sur une ligne responsabilisante par rapport à cette question du divorce. Il ne prend pas une posture toute compassionnelle qui dirait « Je comprends que parfois c'est si dur, si ça ne va plus, arrêtez. » Le curseur de Jésus est plus près du non que du oui sur cette question douloureuse. Alors quoi ? Jésus aurait-il oublié la compassion ? Aurait-il oublié la compassion pour une ligne de dureté ? Il nous faut nous rappeler que tout au long de la Bible, Dieu nous est révélé, nous l'avons lu encore, comme miséricordieux et compatissant. Où qu'il y a de la souffrance, le Seigneur la voit. Et il n'est jamais insensible à la souffrance, à cette souffrance. Et c'est vrai aussi des souffrances vécues parfois au sein des couples, lorsque s'invitent les discordes, les dysfonctionnements, les trahisons. Il faut le dire avec force que Dieu est là, compatissant, qu'il connaît ses souffrances, qu'il les comprend, qu'il n'est jamais insensible. Et cela doit pouvoir permettre à chacun d'y trouver une force, une consolation, si l'on connaît de telles situations. Même lorsque Dieu dit « Je hais le divorce », c'est un texte qui se trouve dans le livre de Malachie. Le Seigneur dit « Je hais le divorce ». C'est dans un contexte où très clairement, il y a des responsables, mais où il y a aussi des victimes. Et pour les victimes d'un divorce, un conjoint trahi par exemple, les enfants, les familles plus larges, les victimes d'un divorce, cette haine du divorce que déclare le Seigneur, c'est la haine de la souffrance qu'implique le divorce. C'est la haine de tout ce mal qui doit être enduré par les personnes qui sont là, qui souffrent de cela. Et quand on lit « Je hais le divorce », dans cette perspective-là, il faut l'entendre comme un mot de la compassion de Dieu, l'amour de Dieu pour celles et ceux qui souffrent de ces situations-là. Mais il faut l'entendre aussi comme une profonde indignation du Seigneur contre ceux qui ont trahi leur engagement. Et comme le refus du Seigneur de voir bafouer le mariage qu'il a institué pour le bien de l'humanité. Une ligne donc que Jésus tient, qui est élevée, mais qui n'enlève pas la compassion de Dieu. Il est important de le rappeler toujours. Mais ça nous invite aussi à réfléchir, à nous demander, mais où est la vraie bonté ? Où est la bonté qui fait vivre ? La bonté qui fait avancer ? N'est-ce pas aussi, à certains moments, vraie bonté que de rappeler les objectifs les meilleurs, les objectifs les plus élevés ? La vraie bonté, ce qui est vraiment l'attitude la plus positive, N'est-ce pas aussi d'encourager à faire un pas de plus là où peut-être on serait tenté soi-même de tout arrêter ? La vraie bonté n'est pas de structurer notre vouloir pour nous inviter à dépasser les obstacles plutôt que de les déclarer insurmontables. Le nom que Jésus oppose à la facilité de certains divorces, le nom que Jésus oppose même à certains divorces qu'il nous refuse, est une marque de son amour pour nous et du bien meilleur qu'il veut pour nous. Et il nous faut l'entendre ainsi, le recevoir ainsi. Les statistiques que nous avons autour de nous nous donnent un autre message. Chaque année, nous disent les statistiques, 120 000 divorces sont prononcés en France contre 240 000 mariages qui sont célébrés. Ce qui amène certaines personnes à dire, et c'est faux, à dire qu'un couple sur deux divorce aujourd'hui en France. C'est faux juste de tirer cette conclusion, hein, parce qu'on compare le nombre de mariages chaque année et le nombre de divorces chaque année. Si on voulait avoir une idée plus juste des choses, il faudrait procéder autrement dans les calculs. Il faut prendre une classe de mariages, par exemple tous les mariages célébrés en 1985, et voir 25 ans après la proportion de divorces sur cette classe totale. Comme ça, on peut faire de vrais calculs. Et le chiffre, quand on fait ce genre de calcul, tous tournent autour de 19%. Autrement dit, un couple sur cinq. C'est ça, me semble-t-il, la juste interprétation des statistiques du divorce en France. C'est déjà immense. Et nous constatons que les couples chrétiens ne sont pas épargnés. Et il est facile de se dire, quand on connaît soi-même des difficultés, ben voyez ce qui se passe autour de nous. Un couple sur cinq. Et des gens très bien. Et qui y croyaient. Mais est-ce cela qui nous aidera à nous battre ? Est-ce cela qui nous aidera à avancer que de penser comme cela ? Est-ce cela qui nous aidera à affronter les obstacles ? Est-ce cela qui nous aidera à persévérer ? À espérer encore, même si l'espérance fait mal aussi parfois ? Jésus nous dit, gardez la barre plus haut. Gardez la barre plus haut. C'est votre seule chance de faire mieux. N'abandonnez pas le cap. N'oubliez pas votre engagement. Renouvelez votre oui à ce que vous avez commencé. Donnez-lui force là où il vous a déjà accompagné. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Nous avons besoin, pour bien mener notre vie, de vrais oui. Des oui qui sont des vrais oui. Et des non qui sont des vrais non. Mais qu'est-ce qu'un oui qui tient ? Qu'est-ce qu'un oui qui tient ? Est-ce un grand oui avec un O majuscule jusqu'au plafond ? Un grand oui prononcé un jour avec force, passion et ardeur. Cela compte, un oui décisif comme celui-là. Mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Un grand oui ne tient que s'il est suivi de nombreux petits oui qui le concrétisent en relation avec le quotidien. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux de notre vie. Et là, on élargit par rapport au mariage. Personne ne vit seulement du oui d'un jour. Si vous avez dit oui à Dieu un jour, en lui ouvrant votre vie, en recevant son pardon, c'est magnifique. Mais c'est chaque jour qu'il nous faut renouveler ce « oui », y compris dans des situations concrètes et très simples. Oui, je choisis de prendre du temps avec mon Dieu ce matin, même si j'ai tout un programme devant moi et si déjà le matin j'ai l'impression que je suis débordé. Oui, je vais réagir chrétiennement à telle situation que je rencontre, même si parfois Tant de choses pourraient bouillir en moi. Oui, je veux persévérer dans la confiance, même si je dois attendre. Le grand oui dit à Dieu doit se traduire en une multitude de petits oui quotidiens au travers et au fil de toutes les circonstances de chaque jour. Avez-vous dit oui en acceptant une responsabilité? Ça vous ouvre tout un champ nouveau qui peut-être est enthousiasmant, qui peut-être au contraire vous effraie après avoir dit oui. Mais comment est-ce qu'on va avancer? Comment est-ce qu'on va réaliser ce grand oui d'un engagement pris pour une responsabilité? Eh bien, c'est en vous attelant à la tâche, un pas après l'autre, par une série de petits oui que vous allez avancer. Faire un planning pour ce qu'il faut faire, cette responsabilité, prendre une heure de réflexion, contacter quelqu'un, attaquer la première tâche ou faire le pas suivant. Tous nos grands oui ont besoin de ces humbles oui concrets pour se réaliser. Et il nous faut constamment renforcer les uns par les autres. Les grands oui par les petits par le grand qu'on a prononcé. Il en est de même pour le mariage. Le grand oui du grand jour n'existera que et ne tiendra que s'il est suivi par des petits oui de chaque jour. Petit oui d'attention, petit oui de tendresse, petit oui de pardon, petit oui d'un projet où on se fait plaisir à deux, petit oui qui supporte ce qui est moins agréable, petit oui qui ose discuter des choses qui font mal. C'est la même règle que pour ailleurs. Il faut des petits oui quotidiens pour tenir le grand oui. Sauf que dans le mariage, le quotidien s'invite dans toute sa splendeur. L'une des choses qui fragilise beaucoup de mariages aujourd'hui, mais c'est vrai aussi pour d'autres engagements, c'est qu'on attend du grand oui qu'il nous protège du quotidien, qu'il transfigure le quotidien, qu'il nous fasse échapper au quotidien, que le rencontre ailleurs. On aimerait tellement que le grand oui qu'on a prononcé fasse de chaque jour comme le grand jour. Mais ce n'est pas du tout cela. Ce n'est pas du tout cela. C'est une erreur totale de perspective. Nos grands oui sont toujours appelés à entrer dans le concret, à s'y confronter, à y perdre quelques dorures, mais à y gagner de la solidité. Et comment réussit-on à construire des lignes fortes, des engagements solides et qui tiennent? C'est par ces petits oui quotidiens. C'est en se laissant encourager par les petites victoires. C'est en ne baissant pas les bras devant ce qu'il faut affronter, mais en apprenant à marcher pas à pas, à avancer comme quand on marche en montagne, un pas après l'autre. C'est en ne rêvant pas d'une vie sans nuages. C'est en recevant avec joie chaque éclaboussement de soleil. Ces petits oui font la différence et créent une dynamique et permettent une persévérance. Mais ils ont besoin d'être portés, d'être structurés par le grand oui, comme leur colonne vertébrale et comme leur horizon. Et c'est pour ça que Jésus refuse de considérer à la baisse ce grand oui. Nous en avons besoin, tout comme nous avons besoin de garder clairs devant nous les objectifs et le sens de tous les engagements de vie que nous prenons. Laissez donc nos grands oui s'actualiser dans de petits oui quotidiens, dans la confrontation avec la réalité de chaque jour. C'est uniquement ainsi que nos oui prennent force et consistance. Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il a associé les deux. Un mot à propos des non. Nous avons besoin non seulement de oui qui nous ouvre et qui nous aide à avancer, mais aussi de non. C'est pourquoi Jésus associe les deux. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Les non nous évitent de nous perdre. et nous évite de nous perdre. Dire oui à tout, c'est devenir une girouette sans consistance, à la merci de tout ce qui passe. Les noms ont plutôt un rôle de préservation. Préserver ce que l'on est. Préserver une ligne que l'on s'est donnée. Préserver un choix d'être envahi par mille autres choses. Préserver du mal. Et si nous avons besoin des oui qui nous lancent en avant, nous avons besoin aussi des non qui nous préservent. Dire non est parfois difficile. On se ferme à quelque chose. On peut avoir l'impression de perdre ce que l'on a refusé. Il ne faut pas nous laisser impressionner par ce sentiment. Il vaut mieux analyser ce que l'on perd et ce que l'on gagne en disant non. Quand on dit non à quelque chose de mauvais mais qui nous tente, on n'est jamais perdant. On n'est jamais perdant. C'est ce qu'il faut se rappeler. Car les engrenages et les fruits du mal n'apportent jamais rien de bien. Et donc il faut alors, par exemple, donner force en nous-mêmes à la valeur positive d'un tel non. De même, lorsqu'il faut choisir entre deux choses, on a parfois peur du choix, car dire non à impossible, à une chose qui serait possible, tant qu'on ne l'a pas refusée, c'est peut-être perdre quelque chose. Si on dit non, on perd cet aspect du choix. Mais celui qui ne choisit pas ne pourra pas avancer. Il restera bloqué au carrefour. Et si on essaye d'avancer un pied sur un chemin et un pied sur l'autre chemin, on voit ce que ça donne très rapidement. On sera écartelé. Par contre, celui qui sait dire non à un chemin possible pourra s'engager concrètement sur l'autre voie et pourra y construire quelque chose, y développer quelque chose. Et c'est ça ce qu'il faut voir. Refuser, dire non quelque part, permet de valoriser une option que l'on va suivre et qui sera enfin concrète. Et il arrive qu'on aime rester dans l'indécision de le oui et le non, justement parce qu'on ne veut rien perdre, mais on reste au carrefour, on n'avance pas. Enfin, certains non sont nécessaires comme des barrières face à l'intolérable, face à l'inacceptable. Et il faut nous apprendre à les dire, ces noms, à les poser, pour nous préserver, pour garder notre intégrité, pour refuser l'inacceptable. Certains oui, pour aller jusqu'au bout, auront besoin de non. Autre réflexion sur le oui et le non. Certains oui, pour aller jusqu'au bout, auront besoin de non. Pour préserver un engagement que j'ai pris, je devrais savoir en refuser d'autres. Pour préserver mon couple, je dois refuser l'infidélité. Je dois résister aux autres sollicitations, aussi parfumées soient-elles. Pour honorer un rendez-vous que j'ai pris, je dois écarter ce qui me prendrait du temps inutilement. Même une église, si elle discerne certaines priorités, devra savoir peut-être laisser tomber ce qui s'est toujours fait pour pouvoir avancer dans cette priorité discernée. Nos oui ont besoin de certains non pour aller jusqu'au bout. Mais il nous faut veiller à placer ces noms au bon endroit, à les placer au bon endroit. Si on compare le oui à une route que l'on veut suivre, les noms sont des noms latéraux, des noms qui sont sur les côtés de la route pour nous éviter de partir, de nous détourner de la route, pour éviter la dispersion ou de nous perdre. Mais prenons garde à ne pas mettre les noms en face de nous, comme des obstacles ou des barrages ou des ralentisseurs sur ce vers quoi nous voulons avancer. Ou comme des écrans qui bouchent l'horizon et qui tuent l'espérance. C'est si facile à mettre ainsi sur notre route des noms de nonchalance, des noms de découragement, des noms de refus de s'y mettre, des noms de peur, etc., etc. Veillons donc à, oui, mettre des noms, mais à les placer à l'endroit où ils doivent être. Et nous voilà avec cette parole de Jésus. Que votre oui soit oui, que vos non soient non, que votre parole soit oui, oui, non, non. Quelle sagesse qu'il y ait les deux. Quelle complémentarité entre ouverture et préservation. Mais quelle doigté nécessaire aussi parfois. Que Dieu nous aide à tracer notre chemin avec persévérance dans la marche de chaque jour concrète. Qu'il soit par son esprit la force et la lumière de nos oui et la sagesse de nos non. Amen.